Bonjour, ici Sarah. Je suis élève au lycée Guy Mollet d'Arras. Avec ma classe d'humanité, littérature et philosophie, nous vous proposons une émission consacrée à l'amitié. Au sommaire de cette émission, des micro-trottoirs, des chroniques, des témoignages et des interviews. Pour commencer, nous sommes allés sur les places d'Arras pour recueillir l'avis des habitants sur ce thème qui touche tout le monde, l'amitié.
Pour vous, qu'est-ce que c'est l'amitié ?
Le partage.
Oui, également le partage et puis la confiance.
Bah, l'amitié, c'est une seconde famille.
Bah, pour moi, une amie, c'est comme une... C'est comme une sœur.
Moi, mes amis, c'est mes sœurs.
C'est comme de la famille, mais qu'on a choisi.
Voilà, exact. C'est beau.
C'est voilà. Beau.
Voilà. Bah, c'est échanger, faire une sortie, parler un petit peu, même si on va à un sport ou faire de la rando, tout ça, parler un peu. Et puis, même simplement parler, ça peut réconforter quelqu'un, en fait. Même bonjour ou un sourire dans la rue. Alors, c'est pas de l'amitié, mais c'est déjà... quelque chose.
Je dirais que l'amitié, c'est le fait de partager des moments avec des personnes qu'on aime bien, voilà, que des positifs.
C'est compter sur une personne en qui on peut faire confiance dans tous les moments qui peuvent arriver.
Ouais, c'est ça, il faut être l'un pour l'autre et puis s'aider, se souvenir.
L'amitié. L'amitié pour moi, c'est quelque chose de très sacré, hein. Une responsabilité aussi. Des personnes qui se connaissent, qui s'aiment, qui se disent peut-être tout. Peut-être, ça dépend quoi. Qu'ils se disent tout et puis voilà. L'amitié, c'est ça, c'est une responsabilité. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement et puis voilà.
L'amitié, c'est nous. Elle est bien la réponse ou pas?
Ouh, vaste question. Je pense que c'est pouvoir compter l'un sur l'autre et avoir un lien très fort qui va vraiment durer toute la vie.
L'amitié, c'est quelque chose qui ne se décrit pas finalement. C'est deux personnes qui sont un petit peu sur la même longueur d'onde, qui se correspondent. Et je pense qu'on avance comme ça et puis c'est tout. C'est de bons délires, c'est rire, c'est partager des choses, faire confiance et c'est tout.
Ouh là là, c'est un lien très très fort qui peut se transformer en amour parce qu'on est l'exemple type.
Donc vous étiez amis avant, c'est ça ?
Voilà, pendant 8 ans.
En 8 ans, on était de meilleurs amis.
Et en fait, après, ça s'est transformé. Donc c'est magique.
Explorons un peu plus le thème avec Olympe et Pauline qui vont nous parler de l'amitié dans la littérature.
Imaginez un instant. Harry sans Ron ni Hermione, D'Artagnan sans les mousquetaires, Tom Sawyer sans Huck. Impossible.
Aucun de ces héros ne serait devenu lui-même sans les profonds liens d'amitié que l'unissent à ses compagnons. La littérature regorge de héros qui se soutiennent dans les moments difficiles et parviennent à triompher parce qu'ils unissent leurs forces.
Alors intéressons-nous à ces liens puissants qui transforment de simples personnages en véritables héros.
Pour commencer, penchons-nous sur la célèbre série de livres Harry Potter, écrit par J.K. Rowling.
Les personnages principaux, Harry, Ron et Hermione, témoignent d'une confiance réciproque et d'une fidélité à toute épreuve.
Cette complicité leur donne la capacité de se surpasser pour vaincre les forces du mal. La base de leur amitié, c'est leur complémentarité.
Harry est courageux, mais suit souvent son instinct, sans réfléchir. Hermione est plutôt prévoyante et rigoureuse, et Ron apporte un humour et une légèreté nécessaires à l'équilibre du trio.
L'autrice nous montre ainsi que, contrairement au proverbe, il n'est pas nécessaire de se ressembler pour s'assembler.
Cela est d'autant plus vrai dans le tome 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Le groupe d'amis parvient à fédérer au-delà des différences en créant l'armée de Dumbledore.
Des élèves venant des différentes maisons de l'école, Gryffondor, Serre d'Aigle et Poufsouffle, s'entraînent tous ensemble à combattre les forces du mal.
Leur but est de contrer la nouvelle directrice, qui opprime les élèves, mais surtout de pouvoir lutter contre Voldemort.
Ils savent que face au mal absolu, ils auront besoin d'unir leurs efforts. L'adversité peut donc également faire naître certaines amitiés, parfois les plus inattendues.
Cette amitié qui se forge dans l'action, on la retrouve également dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, dont chacun connaît la devise « un pour tous et tous pour un ». Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan sont prêts à tout partager, les honneurs comme les risques.
On le voit par exemple au moment du siège de La Rochelle. Les compagnons s'aventurent dans le bastion Saint-Gervais qui est particulièrement exposé aux tirs ennemis. Ils combattent ensemble et parviennent courageusement à faire reculer des soldats bien plus nombreux. Sur le papier, le combat n'était pas gagné, mais pourtant, ils remportent la victoire.
Sans leur complicité, cela n'aurait pas été possible. Malgré le danger de mort, aucun d'entre eux n'envisage jamais de quitter le groupe et d'abandonner les autres.
L'amitié qui se forge dans l'aventure, on la retrouve aussi chez Tom Sawyer, le héros de Mark Twain.
Tom mène une vie normale, il va à l'école, il est contraint de suivre les normes de la société, mais il devient ami avec Huck. Huck, c'est l'incarnation de la liberté absolue. C'est un enfant qui vit dehors, en marge de la société et qui ne suit aucune règle.
Malgré cette différence de milieu social, les garçons forment un duo soudé. Leur solidarité, on la voit notamment se manifester à un moment clé du roman.
Lorsque les deux amis sont involontairement témoins du meurtre du docteur Robinson, ils concluent alors un pacte de silence pour se protéger l'un l'autre.
Ils s'engagent à ne révéler à personne l'identité du meurtrier, car ils savent que leur vie est en jeu.
Leur soutien réciproque est donc vital, mais leur relation ne s'arrête pas à ce pacte. Ils veulent vivre une grande aventure ensemble, et comme des pirates, ils se mettent à la recherche d'un trésor.
Ils le trouveront dans une grotte, après avoir surmonté de nombreux obstacles, qui les auront fait grandir ensemble. Tom aura appris à être courageux et Huck aura appris à gérer son comportement pour s'intégrer à la société.
On pourrait encore citer de nombreux exemples, mais vous l'avez compris. À travers ces quelques figures emblématiques, l'amitié est un terme littéraire, universel et intemporel.
Si ces relations de complicité nous touchent, c'est parce qu'elles ressemblent à celles que nous connaissons.
Ce sont nos amis avec qui nous avons des fous rires.
Mais ce sont aussi ceux qui nous consolent et qui nous soutiennent dans les moments difficiles.
L'amitié fait partie de notre humanité. Alexandre Dumas avait donc raison. Un pour tous et tous pour un.
Merci les filles pour votre éclairage sur le sujet. Passons maintenant à un micro-trottoir présenté par Gabriel et Daniel sur les amitiés à travers le temps.
Avez-vous gardé vos amis d'enfance ?
Oui.
Oui, oui, oui.
Oui, quelques-uns.
Non.
Non.
Quelques-uns oui, quelques-uns non et d'autres sont partis.
Ah, que oui. Ils sont dispersés en France, bien sûr. Mais on se contacte régulièrement, au minimum une fois par an. Et dans un resto en particulier.
Alors, je dirais qu'en fait, pourquoi ne plus avoir gardé les amis d'enfance ? La vie fait que, étant donné qu'on travaille dans le monde entier à présent, qu'on a des enfants, etc., l'amitié qu'on avait auparavant, la vie fait qu'on se sépare. Et au fur et à mesure de la vie, on retrouve et on sympathise avec d'autres personnes avec lesquelles l'amitié est profonde également. Et voilà pourquoi on n'a plus les mêmes auparavant, les amis d'auparavant.
Quelle est la différence entre les amis et les meilleurs amis ?
Les meilleurs sont les meilleurs.
Les meilleurs amis, c'est surtout sur qui on peut le plus compter.
J'ai pas d'amis, je suis seul.
Je pense que les meilleurs amis, on n'en a pas tant que ça. Des amis, on peut avoir beaucoup plus que meilleurs amis. Et je pense que c'est la question de confiance aussi.
Alors les amis, pour moi, c'est des connaissances plutôt. Les meilleurs amis, tu les comptes sur les doigts d'une seule main, voire ça n'existe pas. Moi, mon meilleur ami s'appelle Marc. C'est moi-même, voilà.
Bah, les meilleurs amis, c'est plus important, quoi. C'est les personnes sur lesquelles on peut compter dans les biens et dans les mal.
Les meilleurs amis, c'est ceux qu'on peut voir régulièrement, ceux avec qui on peut avoir le plus de contact et avec qui on sait qu'on aura du soutien. Si on a un problème.
Un ami, c'est une connaissance. Les meilleurs amis, c'est ceux qu'on contacte quand ça va bien ou quand ça va mal.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient votre meilleur ami ?
Non, je me méfie de tout. Parce que le monde est trop bizarre, quoi.
Je sais pas, c'est le feeling.
quand elle est là, dans les pires moments et dans les meilleurs.
Des expériences partagées, du temps passé ensemble. Et souvent aussi, quand on partage des difficultés, ça aide à créer des liens un peu plus solides.
C'est le renvoi de la personne qui fait que on aime se rencontrer ou pas. C'est difficile, hein, parce que ça dépend de la personne. Tout simplement.
Il faut du temps, une connivence et se connaître et du respect. Tellement de choses, tellement compliqué.
Je pense que c'est L'empathie, le fait qu'on se comprenne, qu'on échange, qu'on se confie des secrets même. Parce que Anna, ça fait peu de temps que nous nous connaissons et nous avons le même tempérament, la même façon de faire, le feeling. Voilà.
On sent la personne ou pas.
Voilà.
Ben, on aime bien les gens, naturels, voilà. Spontanés, qui ne jouent pas un rôle dans la vie. Voilà, on est comme on est, quoi. C'est ça important,
voilà.
D'être naturel.
Pensez-vous qu'on peut avoir plusieurs meilleurs amis ?
Bien sûr.
Non, il n'y en a qu'un, c'est le meilleur.
Oui, absolument, oui. Oui,
oui, on peut avoir plusieurs amis. Des amis sincères, on peut en avoir plusieurs, il n'y a pas de souci.
Ah ben, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Mais il n'en faut pas trop, si on veut les garder, parce que plus on est... plus il risque d'y avoir parfois des conflits. Ne pas parler politique, par exemple.
Oh, oui, bien sûr.
Je suis d'accord.
Oui, mm-hmm. Oui, on peut ouais. avoir plusieurs amis. Ouais. Mais c'est quand même... faut pas en avoir de trop, hein, de toute façon. Je pense que l'amitié, c'est...
Il faut garder le meilleur.
C'est sincère, c'est profond. Ouais. Et ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup.
Merci pour ces interventions intéressantes sur le sujet. Continuons sur une chronique en forme de table ronde présentée par Maëline, Anatole, Oriane, Zoé et Louise sur le sujet de qui se ressemble s'assemble.
Qui se ressemble s'assemble ? Je pense qu'on a tous déjà entendu cette phrase, alors aujourd'hui on va la développer. Oriane, qu'est-ce que toi t'en penses ?
Merci Maëline. Alors pour moi, non, pas forcément. Je pense que deux personnes qui ont le même caractère ne s'aident pas forcément. Par exemple, si on prend deux personnes qui ont un caractère fort, ils vont toujours être en conflit. Et dans l'exemple contraire, si on prend deux personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles ne peuvent pas s'élever forcément. Et pour moi, elles ne se complètent pas.
Mais pourtant, les personnes qui se ressemblent, elles ont des facilités à se comprendre. Leur même vision des choses les aide aussi à se mettre d'accord. Les personnes se sentent plus souvent à l'aise avec ceux qui leur ressemblent. Ça apporte une sorte de familiarité rassurante.
Aristote déclare que l'amitié parfaite n'existe qu'entre des hommes, bien ce qui signifie des hommes croyant en même valeur. Il se renforce donc et crée un sentiment d'amitié.
C'est aussi quelque chose de rassurant, dans le sens où on n'a pas peur d'être jugé pour nos intérêts. On se sent compris, on a directement une complicité plus forte, entre guillemets. On se sent proche et c'est un sentiment qu'on adore, parce qu'effectivement ça peut créer une unité face aux autres groupes.
Je suis plutôt partagée de mon côté car que ce soit en amitié ou en amour, la réelle entente, elle ne va pas dépendre d'une couleur préférée ou d'un artiste préféré. Mais notre manière de penser et nos choix, ils définissent aussi qui nous sommes, donc ça garde une part d'importance pour moi.
Il y a certains philosophes comme Spinoza qui pensent également qu'avec des désirs qui se ressemblent, on ne fait plus qu'un.
Je suis d'avis que les similitudes ne font pas tout. J'ai un groupe d'amis dans lequel tout le monde est différent, cependant c'est aussi cela qui fait qu'on s'entend bien. On se complète avec nos différences.
Quand on parle de ressemblance, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir au niveau socio-professionnel. Dans le passé ou encore maintenant, les amitiés se font souvent sur un lieu de travail ou pendant les études, ce qui rassemble donc des personnes autour de mêmes passions. Par exemple, au lycée, quand vous choisissez des spécialités, vous passez beaucoup de temps avec des personnes qui ont des mêmes intérêts que vous, ce qui permet de créer des amitiés assez fortes.
Merci pour vos interventions. Nous avons exprimé nos opinions sur la théorie du « qui se ressemble s'assemble », mais évidemment, vous avez la liberté d'avoir votre propre opinion.
Très intéressant. Merci beaucoup pour vos avis. Restons sur les chroniques et sur un sujet tout autant intéressant, la trahison intra-amicale présentée par Juliette et Laura.
L'amitié est un terrain fragile. On y marche avec confiance, on y dépose nos secrets, nos rires, nos faiblesses. On croit que l'autre tiendra nos mots comme on tient un trésor. Mais parfois, une fissure apparaît, une phrase répétée, un geste mal placé, une promesse brisée. C'est la trahison, cette douleur silencieuse qui frappe la honte à ton pas.
La trahison dans l'amitié n'est pas seulement une action, c'est un séisme. On perd l'équilibre, on remet tout en question. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? On se demande si on a mal vu, si on a trop donné, si la confiance n'était qu'un pari risqué. Une amitié peut survivre à des disputes, mais survivre à une trahison, c'est une autre histoire. Car ce n'est pas la colère qui fait le plus mal, c'est le choc d'avoir été blessé par quelqu'un qu'on pensait incapable de nous blesser.
Alors, vient la question du pardon. Faut-il pardonner ? Peut-on pardonner ? Pardonner n'est pas effacer, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé.
Ce n'est pas offrir une deuxième chance à n'importe quel prix. Pardonner, c'est d'abord une décision personnelle, intime, choisir de ne plus laisser la blessure nous contrôler. Le pardon est une force, mais il n'oblige pas au retour. On peut pardonner quelqu'un, et pourtant, décider que son rôle dans notre vie est terminé.
Il y a des trahisons qui révèlent des vérités. Elles montrent qui tenait vraiment à nous, qui respectait nos limites, qui savait ce qui devait rester secret. L'amitié sincère ne craint pas la transparence. Elle se nourrit de loyauté, pas de jalousie ou de manipulation. Une trahison ne détruit jamais une vraie amie. Elle révèle simplement celle qui n'en était pas une.
Mais il y a des amitiés qui méritent le pardon. Parce qu'on grandit, parce qu'on peut se tromper, parce qu'on peut blesser sans vouloir faire mal. Dans ces cas-là, la trahison est une épreuve, un virage. Si l'autre reconnaît sa faute, s'excuse sincèrement et change, alors le pardon peut devenir une reconstruction.
À la fin, le pardon et la trahison sont deux faces d'une même réalité. L'amitié est un choix, chaque jour. Choisir qui mérite notre énergie, choisir qui mérite d'être gardé dans notre cercle. Choisir, surtout, de ne jamais se perdre pour garder quelqu'un. L'amitié ne se mesure pas à la longueur du temps, mais à la qualité du respect. Et parfois, la plus grande preuve de force, c'est de tourner la page sans amertume et de continuer d'avancer plus légère.
Merci les filles pour cette belle chronique. Intéressons-nous maintenant à l'un de nos CPE, pardon, de notre établissement interrogé par Maëline, Oriane et Anatole.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, donc Monsieur Roger, je suis CPE dans l'établissement à Guimolé et je suis en charge de certains niveaux, donc majoritairement des terminales générales et terminales STMG et quelques classes de seconde, sans oublier les BTS-SAM.
Pourriez-vous définir la toxicité plus particulièrement en amitié s'il vous plaît ?
Alors, la toxicité en amitié, en fait, c'est quelque chose qui amène une relation qui est, j'allais dire, néfaste, qui est inégalitaire, quelque chose qui est pas bon pour l'une des personnes ou éventuellement pour les deux parties, sachant que parfois dans la toxicité, on se rend pas bien compte des choses. Donc, voilà.
Et est-ce que vous pensez que la compétition trop forte peut découler de la jalousie ?
Alors la compétition, l'esprit de compétition, dans un sens à la base, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est pas quelque chose de mauvais, mais si c'est poussé un peu, à son paroxysme, si c'est poussé trop loin, là on peut avoir de la jalousie. Et la jalousie, par essence, c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, parce que c'est envier quelque chose qu'on n'a pas, c'est envier l'autre, et à la fin, ça crée des problèmes, oui.
Est-ce que pour vous, la toxicité peut se soigner chez quelqu'un ou dans une relation ?
Bien sûr, je pars toujours du principe que si on essaye d'expliquer aux gens les choses, qu'on prend le temps de discuter avec eux, de dialoguer, normalement on arrive à leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour quelqu'un d'autre ou pour les autres, et à partir de là on peut peut-être réussir à le changer.
Est-ce que selon vous, on peut savoir si on a des comportements toxiques sans même forcément s'en rendre compte ?
Je pense qu'il y a plein de gens, la majorité des gens en effet, s'en rendent pas nécessairement compte. Il faut qu'on vraiment vienne les voir et leur expliquer, c'est soit par un professionnel, soit par quelqu'un qui a l'habitude de ça, soit éventuellement si on a un outil qui permet de... C'est quelque chose de tout bête, hein, tout simple, qui montre des... qui illustre des comportements. Ça peut être une vidéo, ça peut être une infographie, peu importe, mais ça peut être tous ces genres de choses parce que... En effet, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas bien compte de ça. Il y en a, ça existe, mais il y en a un peu moins, je pense.
Quelles sont les différences, selon vous, entre des comportements difficiles et des comportements toxiques ?
Comportement difficile, c'est large aussi. Parce qu'un comportement, avoir du comportement, c'est, on peut dire, avoir du caractère. On peut avoir du caractère, ça peut être une bonne chose, ça peut être une force. Mais si le caractère commence à devenir, embêtant, on peut reprendre la base de l'adage, c'est-à-dire la liberté des uns s'arrête à celle d'autrui. C'est-à-dire que si vraiment on commence à dépasser un petit peu les bornes, si on a trop de caractère, c'est là que ça devient embêtant. Et c'est là qu'on peut dire que là, on n'est plus sur un caractère difficile, qu'on est plutôt sur quelque chose qui est toxique. Et surtout, encore une fois, toxique, c'est quelque chose qui est vraiment, qui fait mal, qui est néfaste, qui est pas bon pour l'autre personne.
Pourquoi certaines personnes restent-elles dans les relations toxiques malgré la souffrance qu'elles ressentent ?
Mais tout simplement parce que bien souvent, elles ne s'en rendent pas compte. Donc j'ai un peu l'impression de claquer ma science depuis tout à l'heure, mais j'ai parlé du syndrome de Stockholm. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on est sous l'emprise de quelqu'un. Et de ce fait-là, on continue. Ça nous paraît normal. C'est une forme de normalité, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est là que le rôle de la personne tierce arrive, de permettre à l'autre d'ouvrir les yeux, tout simplement.
On remercie à nouveau Maxime Roger, CPE et référent harcèlement au lycée Guimolé d'Arras.
Poursuivons notre sujet avec un témoignage sur l'amitié, l'amour et le sexe présenté par Maëlle, Pauline et Andrea.
Bonjour.
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 Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié fille-garçon, puis-je vous poser quelques petites questions ?
Oui, bien sûr.
Oui, allez-y. Alors, on va commencer par l'amitié fille-garçon. Est-elle différente d'une amitié entre personnes du même genre ?
Eh bien, je trouve que c'est différent par rapport, évidemment, au fait que c'est deux sexes différents, donc c'est deux manières de penser naturellement. Un homme ne réagit pas pareil qu'une femme sur certaines situations, même s'il y a des exceptions. Et je trouve que c'est ça qui donne de la richesse à une relation.
Alors personnellement, je dirais non, parce que j'ai essentiellement des relations avec des filles, des relations amicales. Et évidemment, j'ai déjà eu des relations avec des hommes, et très honnêtement... Je ne vois pas la différence entre les deux.
Pourquoi croit-on qu'une fille et un garçon qui sont amis sont forcément amoureux ?
Alors ça, je pense que ça vient d'abord de la société qui sexualise beaucoup les relations hommes-femmes. Bah, c'est aussi une forme un petit peu de sexisme, hein, de croire qu'une femme est forcément attirée physiquement ou amoureusement par un garçon et inversement.
Je pense que c'est surtout par rapport au fait qu'on a sexualisé ces relations, qu'elles soient totalement platoniques ou non, hein, mais que, ouais, il y a eu une sexualisation qui s'est faite par la société, qu'on n'arrive pas à sortir de cette idée qu'un homme et une femme sont forcément ensemble ou ont forcément des relations.
Quelle est la différence entre l'amour, l'amitié et le sexe ?
Alors, je trouve que le sexe, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amitié et l'amour. Même si c'est lié en quelque sorte, le sexe est quelque chose qui est naturel, donc c'est quelque chose qui est scientifique, c'est deux mammifères qui ont un rapport, alors que l'amitié et l'amour, c'est quelque chose qui vient des sentiments. Et... Après, les trois se complètent, mais je trouve que le sexe est à part des deux autres, de l'amour et de l'amitié.
Alors pour moi, l'amitié, c'est quelque chose avec des sentiments. C'est comme une relation amoureuse, mais avec des sentiments différents. Et pour le coup, je pense que dans les deux relations, il peut y avoir des relations sexuelles à partir du moment où elles sont consenties et qu'il y a une attirance soit physique, soit émotionnelle d'une certaine manière pour les deux personnes.
Pourquoi certaines personnes vivent-elles bien l'amitié avec le sexe alors que certaines trouvent ça compliqué ?
Ben, je trouve que des personnes, comme mettons deux amis qui ont des relations sexuelles, c'est d'abord deux personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui n'ont pas forcément de tabou. C'est souvent des personnes qui cachent pas forcément cette relation, qui l'assument pleinement, qui vivent à 100% leur sexualité et qui s'amusent parce qu'elles ont envie de le faire, sans forcément avoir d'engagement à côté. Et les personnes qui n'acceptent pas ça, c'est pas forcément des personnes fermées d'esprit, c'est juste des personnes qui sont pas attirées par des relations uniquement sexuelles ou autres.
Je pense que pour celles qui trouvent ça compliqué, c'est par rapport au fait qu'il y a de l'attachement, que l'amitié évolue et que ça se transforme en amour. Donc ça doit être surtout par rapport à ça et par rapport, par rapport au fait qu'ils se sentent plus vulnérables ou alors moins posés émotionnellement.
Une relation sexuelle entre amis peut-elle être une simple amitié ?
Alors je trouve qu'une relation sexuelle entre amis peut rester de l'amitié, mais ce sera jamais pareil qu'avant, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y aura forcément une attirance, des souvenirs qui reviennent ou autre. Donc ça peut rester de l'amitié, mais c'est quand même quelque chose d'assez dangereux.
Alors oui, je pense. Après, comme je le disais précédemment, je pense que ça dépend des deux personnes, de leur lien, de leur émotion, de leur ouverture d'esprit aussi, ce qui est assez important dans ces conditions. Mais je pense que ce sont des relations totalement faisables à partir du moment où les deux personnes sont d'accord et ouvertes d'esprit.
Merci Maëlle, Pauline et Andrea. Gardons le même sujet avec un micro-trottoir présenté par Rosemary et Andrea.
L'amitié fille-garçon existe-t-elle vraiment? Et sinon, oui, pourquoi?
Ça existe.
Ouais, ça existe. Parce que certaines filles et certains garçons peuvent s'entendre sans qu'il y ait plus.
Personnellement, j'y crois. À partir du moment où une des personnes veut être amie, c'est bon.
Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. J'ai plusieurs amis garçons. Y a pas de problème, à partir du moment où on s'entend bien. C'est OK.
Oui, je pense qu'elle existe. Parce que on choisit pas un ami par rapport à si c'est une fille ou un garçon.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'amitié homme-fille existe. Pas dans tous les cas. En fait, je sais pas. Si, je pense que ça peut exister comme ça peut ne pas exister, du coup.
Je pense que ça existe.
Je pense qu'il y a les deux. Je pense que tu peux être très amie avec un mec et je pense que ça peut très bien se passer toute une vie.
Oui.
Y a-t-il de l'ambiguïté dans ce genre d'amitié, selon vous?
Non, pas forcément. Après, ça dépend des intentions de l'un et de l'autre, mais personnellement, c'est OK.
Y en a certains, oui, parce qu'il y a une attirance spéciale, mais pour d'autres, non.
J'ai déjà beaucoup d'amis garçons et tout. Malheureusement, il y a quand même eu de l'ambiguïté entre nous. Mais franchement, oui, j'y crois.
Moi, je pense pas tant que tu mets...
Justement, c'est pour ça que je disais ça, en fait. Je pense que ça dépend. Justement, une amitié homme-femme peut bien se passer s'il n'y a aucune ambiguïté, par exemple.
Oui, voilà.
Et je pense qu'une amitié peut vite se briser s'il commence à avoir d'ambiguïté d'un côté comme de l'autre. Et là, ouais, ça peut poser problème. Mais si c'est vraiment très platonique, sans ambiguïté, parce que je pense qu'on peut avoir des liens d'âme de fou,
ouais,
je pense que ça peut très bien fonctionner.
Peut-on avoir une relation charnelle avec quelqu'un et juste après être ami avec?
Je pense que oui.
Ouais, je pense aussi.
C'est pas
ouais,
parce qu'on se voit tout nu que... Je pense que... en fait, ça revient au même... Non, mais ça revient au même point
oui,
que ce qu'on a dit.
Ce qu'on a dit.
En fait,
oui,
ça dépend s'il y a de l'ambiguïté ou pas.
Oui.
Parce que avoir une relation charnelle ne peut pas engager forcément d'ambiguïté.
Ouais.
Si c'est très platonique, en fait, ça revient au même point. Si c'est très platonique, ça peut juste être sur le plan physique et sur le reste, toute une vie rester très platonique. Ouais.
Non, parce que ça crée un lien spécifique.
Ça, oui, si c'est juste, par exemple, pour une soirée ou... Enfin, si c'est pour une fois, c'est bon, c'est... Ça arrive, hein.
Ça dépend de la maturité. Moi, personnellement, je dirais que oui, mais... Ça va de soi, ça dépend de la personne.
Merci les filles. Maintenant, voici un micro-trottoir sur l'amitié et le numérique présenté par l'ensemble des élèves de l'émission.
Que pensez-vous des amitiés numériques sur Internet, sur les réseaux
C'est bien, c'est des nouveaux liens. C'est important autant que ceux qu'on voit dans la vraie vie.
Moi, je trouve ça plus compliqué. Se rencontrer sur les réseaux sociaux,
c'est ça.
Moi, je trouve ça compliqué dans le sens où, du coup, on ne connaît pas la personne et on ne sait pas qui peut se cacher derrière, etc. Donc... Je trouve que ça remplacera jamais les rencontres plus spontanées en réel.
Je pense que c'est pas trop bien parce qu'il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas cette sensation de savoir comment la personne se sent. Des amitiés comme ça, physiques, visuelles, c'est beaucoup plus sympathique, je veux dire.
Moyen. Nous, on a un peu de mal avec ça. Moi, j'ai personnellement un manque de confiance parce que je ne sais pas vraiment qui j'ai au bout, qui j'ai à l'autre bout de la truc. Donc ça me... m'intéresse pas du tout.
Moi je suis complètement contre. Alors là, je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que le partage, ça passe pas par le partage en ligne. C'est plus du visuel.
Alors moi je suis pas du tout adepte de ça. En fait je trouve ça trop virtuel. J'ai besoin de voir les gens, leur tête. Ça me parle pas pour moi. Je suis pas la génération où je veux créer des amitiés comme ça.
C'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de contacter avec plein de gens différents à travers le monde, sans forcément avoir la disponibilité pour aller voyager, etc. Garder contact avec des personnes qui sont loin et faire de nouvelles connaissances.
Moi, je viens d'une génération, je dis ça, je suis encore très jeune, mais je viens d'une génération où on m'avait beaucoup mis en garde en disant « attention, ne pas discuter avec n'importe qui sur Internet ». Mais quand même, moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'amis, en fait c'est surtout des confidents effectivement, je les ai jamais vus en vrai, mais c'est vraiment des bons confidents. Donc moi j'ai envie d'y croire à cette amitié en ligne.
Alors, c'est une bonne chose parce que il peut y avoir certaines personnes qui sont très timides et ça leur permet de franchir un cap parce que on n'est pas l'un en face de l'autre, donc ça peut permettre d'avoir des relations et des liens. Mais après, numérique, j'ai 50 ans, donc j'ai pas votre vocabulaire, mais tout ce qui peut être stalké, des choses comme ça. Du jour au lendemain, c'est terminé, hop, on est éliminé et on n'en parle plus. Donc ça, c'est un petit peu particulier par rapport à l'amitié numérique.
Quelles sont les différences entre une amitié virtuelle et une amitié physique ?
Pareil, c'est un peu le contact. Enfin, même si physique, on n'est pas amitié comme ça, mais on se voit, on échange les expressions de visage. Enfin, sur Internet, on voit aussi les visages, mais je préfère en direct. Mais ça, c'est notre époque.
Dans l'amitié numérique, on peut beaucoup mentir. En fait, sur l'apparence, sur son âge. Donc, je pense qu'il y a peut-être plus de mensonges que sur l'amitié réelle, quand on se voit, quand on partage des moments ensemble. La confiance entre les gens, je pense, ça joue.
En physique, on reste nous-mêmes. En virtuel, on essaie de, peut-être inconsciemment, de se créer une image de qui on veut être. Et c'est difficile de prendre conscience de tout ça.
On peut pas faire de sortie quand c'est des amis virtuels.
La proximité ouais. aussi, parce que du coup, bah, on ne sait pas comment la personne va agir, rien que l'accent qu'elle va avoir ou quoi, surtout ici. Je ne sais pas, c'est différent, il y a moins le lien.
Je pense que derrière un écran, c'est beaucoup plus difficile pour de partager des moments forts, je trouve.
L'amitié physique, c'est vraiment c'est du rapprochement entre amis, c'est de pouvoir faire des activités ensemble, etc. Vraiment rire, partager des choses, alors que l'amitié numérique, ça se limite à vraiment rire à travers un écran, quoi, finalement.
L'amitié physique, le fait de voir les gens, ça paraît plus sincère, plus vrai, ouais. plus de confiance. De puis des fois, on n'a pas besoin de parler. Regarder, ouais,
parce que... échange, on communique sans parler. Voilà. Et à travers un écran, c'est pas tout à fait la même chose. En plus, on peut changer les écrans, notre image à l'écran, etc. Donc ouais. C'est un peu faussé, le jeu est un peu faussé.
Pourriez-vous être ami avec quelqu'un que vous ne verriez probablement jamais et pourquoi ?
Non, je pense pas. Du coup, ça serait pas logique vu tout ce que j'ai dit. Mais non, pour moi, ça me parle pas. Si je vois pas la personne, je peux pas être amie avec elle.
Et si c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant et que vous savez que vous ne verrez plus jamais par rapport à la distance ou autre ?
Ça m'arrive. Du coup, il y a des gens qui déménagent. Donc du coup, je garde des liens avec des gens qui sont loin. Donc là, bien évidemment, c'est complètement différent.
Bah moi, ça me dérangerait pas.
Bah moi, pas du tout. Non, pas du tout. Bah, tu connais jamais la personne si tu la vois pas.
Ah si, tu la connais, mais virtuellement.
Tu connais que ce qu'elle veut bien te faire...
Mais après, c'est pareil, que ça soit virtuellement ou dans la vraie vie, tu connais seulement ce que la personne a envie de te dire, dans tous les cas. Moi, ça me dérangerait pas.
Bon, bah moi, ça me dérangerait.
J'ai des amis, donc j'ai jamais vu personnellement dans la vraie vie. Mais ça se limite à ça, en fait. C'est juste une amitié, mais virtuelle.
D'accord, et ça fait longtemps que vous êtes amis avec votre ami virtuel ?
Ça fait 3-4 ans, ouais.
Ok, donc ça dure quand même ?
Ouais, quand même, ouais.
Avec un ami qu'on ne pourrait jamais... Bah, je ne pense...
Si on veut raconter quelque chose à un parfait inconnu, et on peut peut-être sortir des choses qu'on ne dirait peut-être pas justement à un ami, pour pas le froisser, ou pour pas qu'il ait une mauvaise opinion de nous, donc à ce moment-là, sans voir la personne, on pourrait peut-être être plus libre de raconter quelque chose pour justement avoir une réaction. On n'aurait peut-être pas peur d'être jugé ou des choses comme ça, donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là.
Après, en voyant une personne une seule fois, il n'y a pas d'amitié ? Non, si on la voit qu'une seule fois, donc il n'y a pas d'amitié qui peut se créer. Parce que l'amitié, ça se crée sur du long terme.
Voilà. Il y a quelquefois des gens qui communiquent comme ça longtemps.
Oui, mais
et qui.
Après, on communiquait, nous de notre temps, on communiquait longtemps avec des personnes pour l'avoir vécu par lettre. Voilà. Donc en fait, on s'écrivait à l'époque, on avait des lettres, et pour autant qu'on ne s'était jamais vu sur une année. Et on ne s'était jamais vu, mais ça pouvait durer une année. Il y avait une semblant d'amitié, mais sans être forcément en visu.
Moi, j'ai une amitié qui dure depuis plus de 50 ans. On est amis d'enfance depuis plus de 50 ans. Et elle va durer encore longtemps, j'espère.
Moi, pas 50 ans, parce que... À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Quoi.
Bah, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, sur la Play, à rencontrer des gens. Puis au final, ça devient des très bons potes que j'ai jamais vus, mais ça fait des années qu'on se parle. Comme si on était meilleurs potes, comme si on était frères, on se charrie. Et on, voilà.
Bah oui, parce que j'ai déjà été amie avec une fille que je connaissais pas, mais on a arrêté d'être amie, mais parce que voilà, on se voyait pas, mais oui, je pourrais être amie avec quelqu'un que j'ai jamais rencontré dans la vraie vie.
Moi, je peux répondre aussi à ça, parce que j'ai pas mal voyagé dans le monde entier, et donc par exemple au Vietnam, j'ai toujours gardé la communication avec le guide qui est venu en France, etc. Ah oui. Et maintenant, on ne se voit plus parce que bon, ça fait 5 fois que je vais au Vietnam, ça suffit. Et, mais on continue à correspondre. Et puis voilà, donc c'est une amitié. Bon, on ne peut pas dire qu'elle soit, c'est pas virtuelle, mais on s'est vu. Mais bon, c'est. Et pareil pour un Indien. J'ai un Indien de l'Inde que je vois de temps en temps, mais surtout bah, avec WhatsApp et tout ça, quoi.
Terminons maintenant avec l'interview de Emmanuel Beaumont, créateur de l'association RIPA, association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, présentée par Maxence et Zoé.
Nous sommes avec M. Beaumont, professeur au lycée Guy Mollet. Bonjour.
Bonjour.
Vous menez des actions avec vos élèves auprès des personnes âgées isolées. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?
Oui, c'est un projet intergénérationnel où des élèves sont mis en binôme avec une personne âgée. Et le but est de téléphoner pour rompre l'isolement de ces personnes âgées et lutter contre la solitude. Il y a des visites également qui sont réalisées à l'EHPAD. Et en complément, l'association envoie des cartes de vœux au moment des fêtes de Noël et achète soit des chocolats, soit une rose au moment des anniversaires des résidents.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser ces activités à l'EHPAD ?
Eh bien, quand on demande à une personne âgée si elle va bien, souvent la réponse est les journées sont longues. Et une étude qui est parue en avril dernier qui indique que 750 000 personnes âgées en France ne voient jamais personne de la journée et certaines d'entre elles pendant plusieurs jours. Et donc il fallait forcément faire quelque chose.
Comment vos élèves ont-ils réagi lorsque vous avez parlé de ce projet ?
Alors, ben, y a deux choses. En fait, il y a les élèves qui sont un peu sur leur téléphone, hein, comme la nouvelle génération, et qui n'ont pas du tout adhéré, et d'autres qui étaient très, très enthousiastes. Et donc, y a eu pas mal d'envie et de réponses favorables à ce projet. Alors, j'ai surtout demandé à des élèves qui sont en série ST2S, santé sociale, mais après on peut élargir évidemment, j'ai déjà eu pas mal de réponses avec juste ces classes là donc ça promet un bel avenir à ce projet.
Comment avez-vous préparé les élèves avant la première rencontre ?
Alors le premier contact c'est un contact téléphonique et c'est évidemment pas facile pour les élèves de prendre ce premier contact. On ne sait jamais, on ne connaît pas la personne. Donc du coup, je leur ai préparé une petite fiche avec des exemples de conversations pour pas qu'il y ait trop de blanc au moment de la conversation téléphonique. Et puis tout doucement, l'élève et la personne âgée vont apprendre à se connaître. Et puis très vite, il y a l'envie de se voir, de se rencontrer. Donc on se déplace à ce moment-là aussi à l'EHPAD.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de la mise en place de ce projet ?
Alors, les difficultés, du temps déjà, parce qu'il faut donner, du temps, il faut avoir du temps. Et donc entre la vie familiale, la vie professionnelle, il faut trouver tout ce temps d'organiser tout ça. Des compétences au départ, parce que monter une association, c'est pas forcément facile. Créer un site internet, par exemple. Au niveau des bénévoles, c'est pas très compliqué, parce que j'ai quand même pas mal de réponses favorables, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis une dernière difficulté, c'est la difficulté financière, puisque on achète des roses, on envoie des cartes postales, on achète des chocolats, et donc tout ça, c'est un coût. On n'a pas de subvention, on a juste que des dons de particuliers. Donc c'est la grande difficulté du projet.
Quel effet avez-vous observé chez les résidents après cette activité ?
Alors, selon la responsable de l'EHPAD, qui est une ancienne élève, c'est assez rigolo, il y a beaucoup de joie, beaucoup de sourires et beaucoup de partage, et aussi de l'attente du prochain appel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif.
Et pour les élèves, qu'est-ce que cette expérience leur a apporté ?
Alors peut-être pour la première fois, c'est ils créent leur propre histoire, indépendamment de leurs parents, et donc ils ont un sentiment de servir à quelque chose, le sentiment de faire du bien autour de soi, et donc ça c'est un réel enrichissement personnel.
Avez-vous l'intention de poursuivre ce projet ?
Alors oui, le projet c'est la deuxième année qu'il est reconduit sur Arras, et en fait j'ai bien envie de le faire également sur un établissement qui est surdoué, le lycée Élisa Lemonnier. Donc il sera bien implanté à Arras, je vais l'étendre à d'autres établissements et à d'autres villes.
Et qu'aimeriez-vous changer ou améliorer pour la suite si vous recommencez ?
Alors pour le moment, on intervient dans l'EHPAD Pierre Boll, qui est situé à Arras. Mais on est en contact avec le CRT, le Centre de Ressources Territoriales, qui a pour but de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées qui deviennent dépendantes, les maintenir à la maison. Et donc on a déjà un contact avec le CRT qui nous a donné le contact de plusieurs personnes âgées. Donc on va étendre un petit peu le projet, sortir des EHPAD et aller au contact des personnes âgées qui sont très isolées, qui sont seules chez elles.
Sur le plan personnel, qu'est-ce que cette expérience vous a appris en tant qu'enseignant ?
Que chaque élève poursuit son évolution à son rythme et selon ses intérêts, ses envies, son parcours de vie. Et qu'un élève qui n'est pas forcément très performant en classe peut vraiment s'épanouir dans un projet et qu'on découvre une autre personne. Et ça, c'est vraiment très enrichissant d'un point de vue de mon côté, mon enseignant.
Un grand merci pour ce temps que nous avez consacré. Félicitations et longue vie à ce beau projet.
Merci beaucoup.
C'était Emmanuel Beaumont, professeur en sciences et technologies de la santé et du social au lycée Guy Mollet.
Merci Zoé et Maxence. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association ou faire un don, rendez-vous sur le site internet assoripa.fr. Les élèves du lycée Guy Mollet d'Arras en spécialité humanité, littérature et philosophie vous remercient de votre écoute. Si vous souhaitez réécouter notre émission, vous pouvez la retrouver sur radiopfm.com. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit si vous allez dormir, et n'oubliez pas, prenez soin de vos amis.